LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Toute la collection de Toutankhamon, ou presque, va finir dans ce musée. Le GEM, le grand musée du Caire, ils sont en train de transporter au musée les naos, on les appelle, le terme ancien c'était naos, chapelle, naos, qui contenait les cercueils de Toutankhamon.
Le GEM, c'est l'acronyme du grand musée égyptien. Pour célébrer le centenaire de la découverte de Toutankhamon, l'Égypte voudrait inaugurer, après 20 ans de travaux, son immense musée ultramoderne, capable de présenter pour la première fois dans son intégralité et entièrement restauré le fabuleux trésor de Toutankhamon. Toutankhamon, le retour du pharaon. Élise Gruau, Diffy Mariani. Épisode 2, qui est Toutankhamon ? Un puzzle de 5000 pièces. À l'heure où nous enregistrons, les pièces maîtresses du trésor, dont le célèbre masque d'or de Toutankhamon, icône de la civilisation égyptienne pour le monde entier, se trouvent encore au vieux musée du Caire, place Tahrir. Place Tahrir, épicentre de la révolution égyptienne de 2011, pendant laquelle le peuple du Caire s'est fait rempart pour protéger le musée et son patrimoine. Et au terme de 18 jours et nuits, a obtenu la démission du président Hosni Moubarak. Dans les slogans, on pouvait entendre « Pharaon, dégage !» Une référence qui sert soit de repoussoir de la toute-puissance, soit de faire valoir de celle-ci. Depuis ce printemps égyptien, les pouvoirs se sont succédés, les manifestations ont repris et leur répression aussi. Pas facile de circuler à pied sur cette immense place dévolue à la circulation. Et encore moins facile de s'y rassembler depuis qu'on y a installé un obélisque trois fois millénaire protégé par quatre sphinx à tête de bélier. Depuis 100 ans, les égyptologues cherchent à interpréter cette découverte, à rassembler le puzzle pour former une image. Avec eux, nous allons essayer de mieux comprendre qui fut ce pharaon, aujourd'hui célébrissime, et pourquoi il fut, pendant des millénaires, volontairement oublié. Nous finissons par atteindre l'entrée du musée. Nous nous frayons un chemin parmi la sécurité et les militaires en uniforme blanc. Nous brandissons nos laissez-passer qu'il fut si difficile d'obtenir. « Pour chaque pas, il faudra une autorisation », nous avait-on prévenu au ministère. C'était vrai. Nous y sommes.
On est devant dans la salle du trésor de Toutankhamon.
Shérine El-Kachef, guide égyptologue.
La plupart du trésor de Toutankhamon est déjà arrivé au GEM, à part le masque, un masque unique qui pèse 10 kg d'or massif, incrusté avec des pierres semi-précieuses. Devant vous, là, ça c'était toujours le collier qui couvre le pectoral sur la momie de Toutankhamon. Le visage du jeune pharaon, c'est toujours, ça éblouit tout le monde entier, avec le crâne allongé, avec le cou effilé, les lobes percés, les lèvres charnues. Mais ici, on a les yeux fardés, incrustés avec du lapis lazuli. On voit la beauté du pagne, comment il plie son pied, les détails à droite et à gauche avec la barre postiche, les yeux incrustés. Derrière vous, les pectoraux, les chaînes, les ceintures, tout en or incrusté. Et on ne peut pas imaginer que ça a été sans technologie, sans science, comment ils ont même fait ce travail-là. C'est éblouissant pour tout le monde. On voit devant nous trois cercueils, le petit, le moyen, le grand. Comme les papyrus, l'un emboîté dans l'autre, le plus petit en or. Et on voit là le cercueil de Toutankhamon qui a les deux mains croisées. C'est la forme osiriaque, comme le dieu des morts, le dieu Osiris, avec les deux attributs royaux, le Nefeha et le Heka. Et si on voit la belle vautour qui déploie, vous voyez là sur le cercueil les deux ailes incrustées avec des pierres semi-précieuses. Chaque partie minutieusement, la belle finesse des griffes, même des ongles dans les pattes, tout ça, c'est incrusté dans l'or. D'abord, le masque, ça a été protégé avec 12 couches. La momie, ça a été préservée par 12 couches avec des bandelettes en lin, des bandelettes en cuir. Et quand Carter il a commencé à toucher le lin a été un peu pour tomber en poussière. Il reste dans la vitrine seulement une partie du lin décorée avec de rosaces, couvert avec de la feuille d'or qui couvre même le grand catafalque.
Les objets étaient si nombreux qu'il était extrêmement difficile d'en déplacer un sans courir le risque d'endommager les autres. Dans certains cas, ils étaient même si inextricablement emmêlés qu'il fallait construire tout un réseau de supports avant de pouvoir retirer celui que nous voulions. C'était un véritable cauchemar.
Howard Carter, le découvreur de la tombe, dans son récit, la fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon.
Une paire de sandales décorées de perles, par exemple, avait l'air d'être en parfait état. En fait, les fils étaient complètement pourris. Et il aurait suffi de les toucher pour qu'elles s'effritent aussitôt. Il n'y avait donc qu'une seule solution. Un réchaud à alcool, de la paraffine qu'on laissait durcir pendant une heure ou deux, et on pouvait manier les sandales sans problème. Chaque objet posait un problème différent et nous avions souvent besoin de toute notre expérience pour décider de la marche à suivre.
Extraire et préserver. La première vigilance face à un tel témoignage du passé fut de protéger les objets. On n'avait jamais trouvé un trésor de Pharaon intact. Mais à ce stade, le trésor est encore muet.
Le 27 décembre, tous nos préparatifs étaient terminés. Nous pouvions commencer à vider la tombe. Nous nous étions répartis le travail. Burton prenait d'abord des photos des groupes d'objets numérotés. Hall et Hauser se chargeait alors de faire le plan à l'échelle de la chambre, chaque objet étant dessiné en projection. Calendar et moi établissions ensuite les premières notes et supervisions le transport des objets jusqu'au laboratoire. Là, Mace et Lucas les enregistraient, notaient leurs particularités en détail et s'occupaient de les traiter et de les restaurer.
Comment rassembler les pièces du puzzle ? En chercher les contours, les couleurs et les angles, prendre de la hauteur. Les égyptologues cherchent depuis 100 ans un sens qui se dérobe, puis se précise, s'échappe à nouveau, s'illumine. À propos d'un pharaon qui était presque un disparu de l'histoire.
Le métropolitain financiait un peu les travaux de Carter avant la découverte de la tombe, donc ils ont continué à collaborer avec Carter.
Francis Amin, égyptologue.
Donc le photographe du Metropolitan, Harry Burton, c'est le plus grand photographe des antiquités. C'est lui qui nous a gardé les belles photos de la découverte. Il était photographe du Metropolitan, il était archéologue en même temps. Alfred Lucas était un chimiste très connu et il a ramené les trésors de Toutankhamon dans la tombe de Séti II et il les a restaurés. Il a fait un travail parfait. Donc, il y a une équipe de restaurateurs. Il y avait des centaines d'archéologues qui voulaient participer. Alan Gardner, Henry Breasted, l'Américain, ils ont collaboré dans la traduction des textes parce que Carter n'était pas un égyptologue. Donc, il ne connaissait pas les hiéroglyphes. Il dessinait bien, mais il ne savait pas les traduire. Donc, il y a eu beaucoup de dizaines d'égyptologues qui ont participé dans les travaux de la tombe.
Et il y a aussi tout le groupe des ouvriers qui travaillaient.
Oui, au moins 200. Et il y avait beaucoup d'enfants aussi. Et une photo très célèbre d'un autre Hossein Abdelrasoul qui a été photographié pendant son enfance avec les colliers de Toutankhamon. Des gens disent que c'est lui qui a découvert la tombe, c'est pas vrai. Lui, il était un tout jeune un garçon, peut-être qui travaillait dans les fouilles. Et on a trouvé qu'il ressemblait à Toutankhamon, à l'âge de Toutankhamon. Donc on lui a mis le pectoral de Toutankhamon. Mais sinon, il y avait 200 au moins des ouvriers qui travaillaient. Et en plus, il y avait une cinquantaine de personnages qui ramenaient l'eau au site. Et c'était normalement, à l'époque, c'était la coutume des enfants.
Elle est découverte et on pénètre dans la tombe le 26 novembre 1922 et il va la fouiller jusqu'en 1932. Vider la tombe de Toutankhamon va lui prendre 10 ans pour protéger, préserver tous les objets.
Marc Gabold, archéologue et égyptologue.
Le summum, l'année phare, c'est 1925, avec l'ouverture du cercueil, la révélation de la momie. C'est cette année-là qu'il découvre qu'il y a un cercueil en or massif de 110 kg, ce qui est une surprise totale et absolument extraordinaire. Bon, il découvre la momie qui est en moins bon état. Et ensuite, il va falloir consolider tous ces objets. Et il va pas avoir le temps de tout faire. Hein. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a certains colliers, par exemple, qui ont été trouvés sur la momie. Il a mis les perles dans une boîte. Et puis, en attendant de pouvoir remettre tout ça dans la connexion, il a passé un temps infini à essayer de remettre des fils sur les parures de Toutankhamon pour que ce soit présentable.
Et il a fallu 10 ans pour sortir les objets de la tombe.
Oui. 10 ans pour les sortir.
Ça représente combien d'objets ?
Alors, c'est très difficile, hein, entre 5 et 10 000, mais tout dépend de ce que l'on appelle objet.
Est-ce qu'il y avait
un collier fait de perles, chaque perle est un objet. Donc voilà. Mmh. Et quand il est trouvé en petits fragments, on va avoir dans une boîte les perles, dans une autre boîte les fermoirs, dans une autre boîte d'autres éléments de ce collier, on va avoir 3 objets. Avec 3 indications différentes. Voilà. Donc, on ne peut pas dire le nombre d'objets. C'est un concept qui ne marche pas très bien. Mais on dit entre 5 et 10 000 objets. Voilà. Carter en a numéroté à peu près 3 000.
Il est nécessaire de s'armer de patience. Car pour récupérer et restaurer ces ornements, il faut manipuler au moins 2 fois chaque perle. La reconstitution de l'arrangement initial exige un travail minutieux. Les fils qui les relient sont en général pourris, mais la plupart du temps, elles n'ont pas été dérangées et il est possible, en enlevant doucement la poussière qui les recouvre, de suivre le collier sur toute sa longueur et de connaître ainsi l'ordre exact des perles.
Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on a trouvées de Toutankhamon, qu'on a trouvées dans nulle part, des choses royales. Par exemple, on a trouvé les trésors du Tanis, le 39, mais avant, il n'y avait pas de sarcophage en or. On ne savait pas l'histoire des masques en or. L'orfèvrerie égyptienne était un peu connue, mais avec Toutankhamon, qu'est-ce que c'est ça ? Centaines de kilomètres d'or et des pierres importées de l'Afghanistan, de l'Asie, d'ici et de là. Et même des choses qu'on ne connaît pas leur origine, des pierres qui n'existent pas sur la Terre.
Comme quelle pièce ?
Il y a un pectoral où il y a un pendentif, où il y a une pierre qu'on n'a pas réussi à identifier. Et quand on parle des statues des divinités de l'au-delà, on les voyait représentées sur les parois des tombes, mais là-bas, ce sont des statuettes, et dans des petits naos en bois. Et les aliments, les fruits, le blé, les choses... Non, ça nous a ouvert un livre nouveau sur l'histoire de la vie quotidienne, de la vie royale, des scènes de la vie royale, comme sur les caisses, etc., avec sa femme, ces choses manquaient. Donc non, il y a eu un très grand intérêt à l'histoire de l'égyptologie, même au niveau échec, les jeux des échecs. Oh là là, on n'a jamais trouvé cette quantité de ces jeux-là. On a trouvé plein de choses, et même l'étoffe de l'époque, les ornements, les gants, et même le préservatif. Ça a été trouvé chez Toutankhamon. C'était un lin très fin.
Comment est-ce qu'on a su que c'était un préservatif ?
La forme. C'est pour contenir le sexe, et il y avait une corde à lier en derrière.
Saba Sadik, directrice du musée du Caire.
Après la découverte de 1922 de la tombe de Toutankhamon, ça a été enregistré ici dans le journal d'entrée 1931, parce qu'on a passé 9 ans dans la tombe à numéroter, analyser, travailler avant que les pièces arrivent ici au musée, la place Al-Tahrir.
Vous avez assisté au départ d'une partie du trésor de Toutankhamon vers le GEM. Comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez ressenti aussi à ce moment-là ?
Parmi les pièces les plus importantes, c'est les quatre catafalques qui couvrent la momie de Toutankhamon. On a transféré le premier, deuxième, troisième, le plus grand, le quatrième. C'est aujourd'hui, après la fermeture du musée, commence tranquillement, avec la sécurité, le transfert du grand catafalque. Il y a deux équipes qui travaillent en même temps, l'équipe du Tahrir, du musée du Tahrir, et l'équipe du GEM. On a déjà commencé par les rayons de la catafalque et de scanner le catafalque partie par partie. Et puis après ça, ça a été démonté et ça a été emballé. On a déjà fait une restauration des pièces avant le transfert. Et après l'arrivée aussi, il y aura une autre restauration pour le travail, que ça soit bien accompli.
On sent que c'est une opération qui est entourée de beaucoup de précautions, de secrets. C'est une affaire d'État de conserver le trésor.
Le transfert, ça passe sous la surveillance des conservateurs du musée égyptien et du ministère des Antiquités et aussi des inspecteurs. Et aussi, on a la police des Antiquités et du tourisme spécial à même préserver et garder du début jusqu'à l'arrivée en pleine sécurité.
Les équipes de restauration du grand musée égyptien, le Great Egyptian Museum, sont en train de justement restaurer tous ces objets.
Ils restaurent toute une partie de ces objets qui n'avaient pas été restaurés par Carter parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire, sont en cours de restauration par les équipes du Great Egyptian Museum. Et puis d'autres pièces qui avaient déjà été restaurées par Carter, mais simplement sauvegardées, sont démontées et remontées d'une autre manière parce qu'on s'est aperçu, par exemple, qu'il y a certains remontages de Carter qui n'était pas très cohérent et qu'on pouvait proposer un remontage alternatif. Et quand celui-ci semble préférable, c'est ce qu'il faut faire. Je sais qu'aussi pour les chars de Toutankhamon, il y a certaines pièces qui avaient été mal placées lors des remontages au musée du Caire. Et là, lors du transfert au Grand Egyptian Museum, on a pu les démonter, les remettre exactement à leur endroit d'origine et non pas là où elles avaient été remontées dans les années 20-30 au musée du Caire.
Retournons maintenant au coffre peint pour explorer son contenu en détail. Nous retirâmes d'abord les sandales de jonc. Sous les sandales, il y avait une masse de vêtements en loques. C'étaient là les tristes débris de plusieurs robes royales. Parmi ces vêtements, nous trouvâmes d'autres objets. Deux collerettes de perles de faïence, deux bonnets ou petits sacs ornés de minuscules perles presque entièrement détruits, un petit écriteau en bois sur lequel était inscrit en écriture hiératique « Sandales en papyrus de Sa Majesté ». À quelques rares exceptions près, les sandales de jonc par exemple, tous les vêtements étaient à la taille d'un enfant. Nous pensâmes d'abord qu'on avait simplement gardé les vêtements que le roi avait portés enfant. Mais plus tard, sur l'une des ceintures et les sequins de l'une des robes, nous découvrîmes le cartouche royal. Toutankhamon les avait donc portés après être monté sur le trône.
À Louxor, quand le crépuscule atténue enfin l'écrasante chaleur du jour, les enfants glissent en patins sur la promenade le long du Nil. Louxor était la capitale de l'Égypte au Nouvel Empire, à l'époque de Toutankhamon. À la faveur de la nuit, reparaît le décor antique, la colonnade et les statues du grand temple du dieu Amon. Une immense allée bordée de 700 sphinx à tête de bélier reliait autrefois les temples de Louxor et de Karnak.
On a beaucoup d'informations qui viennent de la tombe, mais la tombe, c'est simplement la partie terminale de la vie de Toutankhamon. Donc, il a régné 10 ans. Il est monté sur le trône, il avait à peu près 7-8 ans. Et ça, on le sait par les chaises qui ont été retrouvées dans le tombeau. On voit que la hauteur, vous savez que la hauteur d'une chaise correspond à la hauteur des jambes, etc. Donc, on peut calculer qu'il avait 7-8 ans lorsqu'il est monté sur le trône.
Bon, ses parents, c'est toujours une inconnue. J'ai développé l'idée qu'il était le fils d'Akhenaton et Néfertiti. C'est en partie accepté par une partie de la communauté égyptologique, mais pas tous. Et puis, son enfance, probablement une petite partie à Tell el-Amarna, donc dans la capitale fondée par son père Akhenaton et Néfertiti. Peut-être aussi dans la région de Harmim, le 9e nome de Haute-Égypte, qui était le berceau, en fait, de la famille royale. Et puis ensuite, on sait qu'au moment de son couronnement, il se trouvait à Memphis, près du Caire, à l'ombre des pyramides. Et il était dans un très vieux palais qui se trouvait là, le palais de Thoutmôsis Ier, lorsqu'il a été couronné.
Les pharaons ont pour mission, reçu des dieux, d'entretenir le monde, maintenir le monde, l'ordre des choses tel qu'il a été établi au moment de la création. C'est ce que les Égyptiens appellent la Maat. Donc c'est un concept que l'on traduit par, selon les cas, par ordre, ordre cosmique, ordre social, ordre politique, ou bien vérité, justice, puisque pour les Égyptiens, établir la vérité, c'est établir les choses telles qu'elles ont été créées véritablement au moment de la création.
Frédéric Mougenot, conservateur.
Et la mission du pharaon, il n'y en a pas d'autre, c'est de garantir l'ordre de cet univers en rendant un culte aux dieux qui, en échange, garantissent la pérennité de la création et notamment le retour annuel de la crue qui fertilise les champs et donc qui permet de nourrir la population. Et en même temps, donc, défendre la Maat, ça revient à repousser le plus loin possible de l'Égypte les forces du chaos que l'on devine en périphérie de l'Égypte, c'est-à-dire les puissances étrangères, les royaumes nubiens, les royaumes du Proche-Orient, et garantir que les Égyptiens, dans la basse vallée du Nil, dorment tranquillement sur leurs deux oreilles et peuvent aller travailler tranquillement pour produire justement ce qui va nourrir la population et les temples, et ainsi de suite.
Pour le reste de sa vie, on a très 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 peu de choses. On a deux anecdotes qui sont conservées grâce à des objets du tombeau. On sait qu'il a participé à une chasse aux autruches, puisqu'il a même récolté sur les autruches les plumes caudales et elles ont été fixées sur un éventail. Et on raconte l'histoire de ces plumes sur l'éventail lui-même. Et l'autre objet tout à fait émouvant à mon avis, c'est une canne de roseau qui fait à peu près 1,35 m de haut, qui a été coupée par le roi lui-même, c'est indiqué sur la canne elle-même, probablement dans une ville du Delta qui est la ville qui a précédé la ville de Pi-Ramsès, qui est une cité de garnison et de soldats à ce moment-là. Et il y avait à cet endroit-là des fabricants de flèches qui faisaient des flèches avec des roseaux qui avaient la particularité d'être très droits. Et c'est avec un de ces roseaux qu'il a taillé cette canne et qui était probablement quelque chose d'important pour lui puisqu'on l'a mis dans le tombeau et on a raconté sur la canne en roseau, on a raconté l'histoire. Roseau que Sa Majesté a sélectionné et coupé de sa propre main dans le bosquet des roseaux de Jaipur qui se trouve à l'emplacement des fabricants de flèches. Voilà.
Donc tout ça, c'est écrit en hiéroglyphe.
C'est écrit en hiéroglyphe.
Tout petit, j'imagine, sur la canne.
Sur la canne, une petite colonne de texte. Voilà, et je trouve ça très émouvant parce que on sait que c'est voilà, on a l'histoire et la chasse aux autruches et la canne de roseau qui sont des événements vraiment anecdotiques. Hein, c'est les deux seuls événements dont on soit absolument sûr. Tout le reste, ben, c'est un peu de la propagande. Quand on voit le roi en train d'effectuer des rituels, on se dit oui, il a probablement effectué des rituels, mais tous les rois le faisaient, donc on ne peut pas le caler dans son règne. On a des représentations d'une bataille en Nubie et d'une bataille en Asie, c'est-à-dire en Syrie-Palestine, mais on ne sait même pas si le roi y a participé. Alors on a retrouvé, bien entendu, une armure en cuir dans la tombe, des flèches, etc. Mais ça, je dirais que ça fait aussi partie de l'équipement pour combattre les forces du mal dans l'au-delà. Donc c'est pas forcément un témoignage de son côté belliqueux. On voit très bien par sa stature que c'est pas un colosse, hein, tout en Camon. On voit très bien qu'il est pas très costaud, même plutôt frêle. Donc il est pas du tout certain qu'il ait vraiment participé lui-même au combat qu'il représente.
Chaque pharaon a grandi le temple. Toutankhamon, comme les autres, a été un pharaon bâtisseur et a laissé sa marque dans les temples de Louxor et de Karnak. Pourtant, on l'a fait disparaître de la liste officielle des pharaons recensés dans l'Antiquité. Pourquoi son nom est-il effacé, martelé, occulté? Il faut aller chercher du côté du père de Toutankhamon pour comprendre le sort qui lui a été réservé. Le pharaon philosophe Akhenaton, qui a construit sa propre capitale à Tel el Amarna et a osé défier la Maat en changeant le culte et le cours de l'histoire.
Ce qui est formidable avec cette période, c'est que c'est quand même l'une des périodes les plus extraordinaires du Nouvel Empire égyptien, je dirais même de toute l'histoire de l'Ancienne Égypte, puisque Amenhotep IV Akhenaton, c'est le promoteur de ce que moi je n'hésite pas à appeler le premier monothéisme de l'histoire. C'est un monothéisme aussi très curieux dans la mesure où il ne se préoccupe pas de l'au-delà. C'est une création permanente du disque solaire qui est la seule véritable entité divine. On adore la partie visible qui est le disque, même la sphère solaire. Et ce que adore Akhenaton, c'est la lumière qui est l'effet perceptible de cet astre. Le disque solaire Aton, il se déplace dans le ciel, mais il est parfaitement muet. Et là, c'est une grande rupture parce que tous les dieux de l'ancienne Égypte, quand ils sont représentés, on a toujours devant une colonne de texte qui dit « parole dite par Sobekri », etc. Ce sont des dieux bavards. Eh bien, le dieu Aton est privé de discours. Il ne dit rien, il agit, il répand la lumière qui provoque la vie, et qui permet la vie sur Terre, et il faut lui rendre grâce pour ceci, d'où les offrandes, d'autant plus que subsiste quand même l'idée que le soleil pourrait ne pas se lever le lendemain matin. On peut changer de religion, on ne peut pas changer de culture. Certains éléments de la culture égyptienne sont profondément ancrés dans la religion, notamment le fait qu'il y a une menace, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr que le soleil va réapparaître le lendemain matin.
Nous sommes ici sur la rive est du Nil, à l'entrée du temple de Karnak, à environ 2 km du temple de Louxor, tous deux parfaitement reliés et alignés dans l'axe du soleil. Sur l'autre rive en face de nous, resplendit un monde sacré. Sous la lumière du soleil, ou dans la nuit, dans l'or des temples illuminés, c'est le massif de la montagne Thébaine, dont se distingue un sommet qui a la forme d'une pyramide naturelle, sous laquelle reposent les pharaons de la vallée des rois.
On se trouve à l'entrée du grand temple de Karnak. Nous sommes accueillis par une double rangée de sphinx à tête de bélier. Donc devant nous, on a le premier pylône qui a été construit à l'époque ptolémaïque. Et plus on va avancer à l'intérieur du temple, plus on va remonter dans le temps, puisque le temple s'est développé depuis une partie centrale vers l'ouest et vers le sud.
Nous sommes à Karnak, dans le grand temple d'Amon. Toutankhamon, né sous le nom de Toutankhaton, car fils d'Akhenaton, a restauré le culte du dieu Amon que son père avait abandonné. C'est pourquoi son nom de règne est Toutankhamon.
Lorsque les dieux ont créé le monde, chronologiquement un peu après la création du monde, ils se sont retirés de ce monde en laissant la gouvernance de l'univers, c'est-à-dire pour les Égyptiens de l'Égypte, à un représentant en chair et en os, qui est le pharaon. Et tous les pharaons après ce premier pharaon mythique, ne sont que la énième incarnation de ce même principe divin, de cette mission confiée par les dieux à leurs représentants. Et donc tous les pharaons ont à cœur à la fois d'être seulement une incarnation de ce principe, donc se mouler dans ce cadre-là, dans cette tradition, et en même temps, il y a un principe qui est contradictoire avec celui-ci, qui est de dépasser les ancêtres. Et c'est une tension qui traverse toute la civilisation pharaonique, ne pas déroger à la règle, respecter la tradition, respecter la Maat, et en même temps, on voit beaucoup de pharaons écrire ce que j'ai fait. Aucun de mes prédécesseurs ne l'avait fait. On n'avait jamais vu ça du temps des ancêtres. J'ai fait des choses plus grandes, plus prestigieuses pour les dieux. Et donc, il y a cette tension permanente qui a dû contribuer à la permanence de la civilisation. Et donc, cette tension, elle se marque aussi dans le destin posthume qu'il se réserve, puisqu'en tant qu'incarnation temporaire de la monarchie, ils doivent la transmettre à leurs successeurs sans vague. Et en même temps, ils veulent un destin post-mortem individuel, qu'on se souvienne de eux. Ils veulent que leur individu persiste dans la longue lignée, la longue litanie des incarnations du principe pharaonique.
Le problème d'Akhenaton, c'est qu'il n'a pas soutenu cette action en faveur des dieux de manière officielle, et donc il a été considéré comme un roi impie. Et ce qui s'est passé surtout à la fin du règne d'Akhenaton, des événements gravissimes, mais pas dans la société égyptienne, dans la famille royale, la mort de la mère du roi, de 3 des enfants du roi, puis la mort de Néfertiti. Donc tout cela est assez inquiétant hein, en soi. On sait qu'il y a une peste qui ravage le pays hittite, elle a été apportée par des prisonniers égyptiens. En plus, les Égyptiens sont battus par les alliés des Hittites en Palestine et en Syrie, à Kadesh. Tout ça est de très mauvais augure. Et moi, là, je vais faire une analyse psychologique. Hein. Je suis un bon Égyptien, je me dis, avec le culte de ce Dieu unique, on s'est peut-être fourvoyé. Puisqu'on a la peste, les armées sont battues. Donc peut-être que si l'on revenait au culte traditionnel, ce serait mieux. Et peut-être que justement, cette peste, ces défaites militaires, c'est une manifestation du courroux des dieux. Et voilà, moi je pense que ça a pu se passer comme ça.
Ici, les archéologues ont retrouvé la stèle de la Restauration, un monument fondamental où le jeune pharaon a gravé son intention de rompre définitivement avec la réforme menée par son père. Cette stèle, aujourd'hui au musée du Caire, porte la trace de l'usurpation de son nom par son successeur, Horemheb.
Le temple de Karnak a été fondé à la 11e dynastie, et puis ensuite il s'est développé, c'est devenu le grand temple du Nouvel Empire, donc la 18e dynastie, celle de Toutankhamon. Et puis, sous Toutankhamon, on a eu la restauration. Alors, ce n'est pas la restauration de tout le temple, il a restauré les accès principaux pour permettre à la barque d'Amon de sortir du temple et d'aller jusqu'à Louxor ou jusque sur la rive gauche, c'est-à-dire faire sortir de nouveau les dieux pour que les Égyptiens voient que les dieux sont toujours là, puisqu'ils avaient été absents pendant un peu plus de 15 années sous Akhenaton. Et ça, c'était très 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 important après la période amarnienne, parce que pendant 15 ans, il n'y a pas eu du tout de sortie du dieu Amon de son temple.
Quand vous dites faire sortir le dieu Amon du temple de Karnak, ça veut dire faire sortir la statue du dieu en
voilà,
procession.
La petite statue qui était dans un petit naos, sur une barque portable, sur des brancards, et qui était emmenée en dehors du temple. Il y avait différentes stations pour que les prêtres se reposent et pour faire quelques rituels, jusqu'à à l'aboutissement des processions, qui pouvaient être soit la rive gauche, et c'était la belle fête de la vallée, et puis l'autre grande fête, c'était la fête d'Opet, à l'occasion de laquelle le dieu allait jusqu'au temple de Louxor, il se régénérait une dizaine de jours, et revenait ensuite à Karnak. Et c'était en gros les deux seules grandes cérémonies, on avait l'occasion de voir. Le peuple égyptien avait l'occasion de voir, même pas la statue, vous voyez le sommet des plumes d'Amon qui dépassait du naos dans la barque.
Portée par par
40 prêtres.
Toutankhamon revient au culte d'Amon, restaure le culte d'Amon, abandonne la capitale fondée par son père. Toutankhamon est probablement sa sœur Mérytaton, qui a régné 2 ou 3 ans entre Akhenaton et Toutankhamon. Ces deux-là restituent donc le culte d'Amon et remettent la monarchie dans les rails de la Maat, en fait. Et le discours officiel de Toutankhamon insiste là-dessus, sur le fait, non pas qu'il dépasse ses prédécesseurs, qu'il fait mieux que ses prédécesseurs, mais qu'il restaure l'ordre de la Maat, l'ordre des choses qui a été perturbé par Akhenaton, sans vraiment le nommer.
Fin du monothéisme exclusif d'Amenhotep IV Akhenaton, c'est la reine Pharaon, donc la fille aînée, à mon avis, hein, les avis des chercheurs sont partagés, mais à mon avis c'est la fille aînée d'Akhenaton et Néfertiti, la princesse Meritaton, qui est devenue roi, qui a en quelque sorte écarté son petit frère pendant 3 ans, elle a régné en écartant son petit frère, elle a pu se constituer un mobilier funéraire tout à fait somptueux. Et quand elle est morte, visiblement, elle n'a pas été enterrée à l'intérieur de ce mobilier funéraire qui a été stocké dans les magasins royaux et réutilisé au moment de la mort de Toutankhamon pour Toutankhamon lui-même. Donc on arrive à ce paradoxe assez curieux, c'est que le trésor de Toutankhamon n'est pas le trésor de Toutankhamon, la tombe de Toutankhamon n'est pas la tombe de Toutankhamon. Et quand même, on a beaucoup avancé.
Et Meritaton, est-ce qu'elle était connue avant vos recherches, Marc Gabold ?
Oui, il y avait déjà un chercheur allemand qui avait proposé que la reine Pharaon qui a régné entre Akhenaton et Toutankhamon, ce soit Meritaton, hein, Rolf Krauss. Moi, j'avais lu ses arguments que je trouvais convaincants. J'en ai trouvé d'autres, mais il faut bien savoir que c'est une pomme de discorde entre les égyptologues, puisque sur cette période, sur la succession d'Akhenaton, je dirais qu'il y a autant d'hypothèses qu'il y a d'égyptologues. La salle hypostyle, c'est en fait une salle qui est supportée par des colonnes. Il y en a 134, avec une travée centrale qui était plus haute, ce qui permettait par la différence d'éclairer latéralement la nef centrale. Et toutes les colonnes sont décorées. Et tout ceci, c'est avec des pigments naturels, donc les couleurs sont très bien préservées. Donc on voit des bleus magnifiques, mais c'est la peinture d'origine. Ça n'a pas été repeint, ça a simplement été dépoussiéré et refixé. Et qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit le rituel quotidien, donc le roi qui fait des offrandes de lait, de vin, de laitue, de parfum, d'onguents, etc. Dans l'esprit égyptien, on fait des dons aux dieux et en échange, les dieux font des dons au roi, mais des dons plus immatériels, la durée de sa royauté, la vie, etc., etc. Sachant que dans l'esprit égyptien, le bon accomplissement des rites permet de maintenir l'état, l'équilibre du monde. Si on ne fait pas ce rituel, eh bien, le monde risque de retourner au chaos. Et ce que dit la stèle de la restauration, c'est qu'effectivement, au moment d'Akhenaton, les temples étaient abandonnés, les salles de culte étaient devenues des chemins piétonniers, donc les dieux étaient diminués, c'est ce que dit le texte égyptien, les dieux étaient diminués par ce qui avait été fait.
Dans la société égyptienne très traditionnelle, c'était audacieux d'entreprendre de changer de dieu. Avec la croyance que ce qui est oublié n'a pas eu lieu, l'hérésie d'Akhenaton a entraîné chez les Égyptiens la volonté d'oublier son règne, d'effacer les noms et jusqu'aux souvenirs de ses descendants. Mais peut-on vraiment effacer toutes les traces de la mémoire ? Frédéric Mougenot est commissaire de l'exposition « Pharaon Superstar » au Mucem de Marseille.
Les Égyptiens ont vraiment à cœur que l'on perpétue leur nom après leur mort, et donc le conseil, c'est bâti des monuments, parce que c'est comme ça qu'on devient immortel, en quelque sorte. Sauf quand on est un pharaon maudit. Dès qu'un souverain s'écarte un petit peu de la norme et menace par là l'ordre du monde, son règne est immédiatement condamné et ses images et ses monuments détruits, puisque le monument garde la mémoire d'un être humain, d'un pharaon ou d'un kidam. Détruire leurs monuments les fera condamner, les fera disparaître pour toujours et leur empêchera d'avoir une vie après la mort. Et donc on présente dans cette section une petite sélection de monuments de pharaons, notamment comme la femme pharaon Hatshepsut, qui en tant que femme a créé un précédent dangereux pour la succession de la monarchie entre hommes. Et donc son successeur, à la fin de son propre règne, a effacé les traces du pharaon Hatshepsut, ou encore les cas d'Akhenaton et Néfertiti, qui ont lancé une réforme religieuse et politique qui n'a pas pris et qui a été jugée effectivement dangereuse pour l'ordre des choses, peut-être parce qu'à ce moment-là, au Proche-Orient, dans tout le Proche-Orient, on a des traces d'une grande épidémie qui a dû être considérée comme une punition immédiate, une réaction immédiate des dieux qui ont dû dire arrêter cette réforme religieuse et politique dangereuse. On vous présente ici, par exemple, un fragment de statue très mutilée d'Akhenaton, où on a vraiment coupé la tête, coupé les bras, coupé le torse, martelé les clavicules et les noms du dieu Aton, le dieu vénéré en exclusivité par Akhenaton, sans doute pour en faire un bloc de construction. Donc c'est vraiment immédiatement le règne et les monuments d'Akhenaton et de son épouse Néfertiti sont condamnés, effacés, leurs images sont mutilées. Et Toutankhamon, qui est l'héritier de ce couple maudit, probablement leur fils, on n'en est pas sûr à 100%, mais les indices convergent quand même beaucoup. Toutankhamon, lui aussi, subit cette vindicte de ses successeurs. Et donc, par exemple, cette statue représente le dieu Amon, le dieu monarchique, le dieu qui intronise les pharaons. C'est vraiment le patron de la monarchie à cette époque. On est au 14e siècle avant notre ère. Ici se trouvait Toutankhamon. Vous voyez encore les talons du roi qui faisait face au dieu. Et donc il a été complètement arasé, complètement enlevé. Ça ne peut pas être accidentel, ce type de coupure vraiment extrême. Et à l'arrière, si vous faites le tour, sur le pilier qui est sur le dos de la statue, on a la titulature d'un pharaon dont les cartouches, donc dont les noms, ont été grattés, martelés pour vraiment le faire disparaître, pour effacer complètement toute trace de son existence et de son règne.
Je vous montre juste en passant ce mur qui clôt ce qu'on appelle la cour de la cachette. Et en fait, ce mur a été décoré à l'époque de Toutankhamon, mais les cartouches ont été usurpées par le roi Horemheb, comme cela se passe assez fréquemment.
Ah oui, on voit vraiment les coups de marteau qui ont effacé le signe gravé.
La nouvelle gravure qui est en creux au lieu d'être en relief. Mais en dessous, on voit des signes qui montrent indubitablement que c'est du Toutankhamon. La même chose pour le cartouche du roi là-haut. Pour un égyptologue, avec les restes de signes que l'on voit, c'est suffisant pour reconstituer le nom, pas de problème. L'attribution est certaine.
Et donc là, de Toutankhamon, c'est toujours ce disque solaire, le scarabée.
Et les trois traits du pluriel et la corbeille.
La corbeille, elle signifie
maître, possesseur, seigneur, quelquefois.
Et le carré qui entoure ça, c'est
l'enceinte sacrée. On va aller voir d'autres blocs un peu plus au sud.
Il est probable que l'oubli de Toutankhamon par les Égyptiens eux-mêmes a joué un rôle dans la préservation de son trésor funéraire dans la Vallée des Rois jusqu'en 1922, puisqu'effectivement c'était un roi qui était éliminé des listes officielles tenue dans les archives des temples et de la monarchie. L'entrée de la tombe de Toutankhamon a été recouverte par les déblais du creusement des tombes postérieures autour, dans la vallée des rois, ce qui fait que l'entrée était absolument invisible, même pour les pillards, qui n'ont pas trouvé sa tombe avant les archéologues en 1922. Or, c'est la seule tombe à ce jour trouvée inviolée dans l'Antiquité, dans la vallée des rois, sans doute aussi parce que la mémoire de l'emplacement de cette tombe et de l'existence peut-être même de ce souverain était perdu ou alors extrêmement confidentiel.
Bon, merci. Mes blocs, hein, ils sont un peu cassés, mais
ils sont magnifiques.
Regardez le visage du roi là, il est beau.
Ah, mais c'est lui là, c'est tout au camion.
Oui, là vous pouvez le prendre en photo parce que en plus il est très bien éclairé, c'est vraiment le beau, magnifique profil de Toutankhamon. Même pas beaucoup de... Là, vous avez de la chance, il est vraiment très bien éclairé. Et vous avez d'autant plus de chance qu'il y a 8 mois, ce bloc était totalement inaccessible puisqu'il était dans le deuxième pylône.
Et là, c'est Toutankhamon avec Horus.
Avec Montou, le dieu Montou. C'est pas parce qu'il a une tête de faucon que c'est Horus. Hein. Non, c'est le dieu Montou. Voilà. تشير الحناء لكن ما فيش شمس
De ce que l'on connaît des trésors funéraires royaux de la 18e dynastie, le trésor de Toutankhamon est assez représentatif. On n'a que des extraits, des vestiges très fragmentaires des trésors de ses prédécesseurs. Avec Toutankhamon, on a un trousseau funéraire complet, entier. Mais en observant finement certains éléments du trésor, notamment l'un des trônes et même le masque funéraire de Toutankhamon, le célèbre masque, on se rend compte que ce trésor est constitué d'objets qui ont été conçus pour le trousseau funéraire d'autres pharaons, notamment de ses prédécesseurs, Akhenaton et Méritaton, qui a régné sous le nom de Néfer-Néféro-Aton. Et ça, comme l'a démontré l'égyptologue Marc Gabold, le masque de Toutankhamon a été conçu pour sa grande sœur, dont on ignore le destin posthume, on ne sait pas où est sa tombe, si elle a été inhumée. Mais le trésor de Toutankhamon récupère un certain nombre d'objets qui provenaient du trésor, ou qui ont été conçus en tout cas pour sa prédécesseuse, mais qui ont été finalement inhumés dans sa tombe à lui.
Vous pouvez nous raconter en détail, par exemple sur le masque d'or, qu'est-ce qui vous a fait dire, Marc Gabold, que c'était un masque qui n'était pas à l'origine pour Toutankhamon?
Là, c'est une découverte de Nicholas Reeves, et pas de moi. En fait, les oreilles de Toutankhamon sont percées sur le masque d'or. Et en fait, on sait que dans l'ancienne Égypte, les enfants ont les oreilles percées, mais quand ils deviennent adultes, ils ne portent plus de boucles d'oreilles. Vous n'avez pas de pharaon avec des boucles d'oreilles. Tandis que les femmes, elles conservent les oreilles percées et elles mettent des boucles d'oreilles. Or, le masque funéraire Toutankhamon a été fait pour un adulte et il a les oreilles percées. Ça veut dire que c'est probablement pour une reine pharaon. Et il n'y a qu'un seul cartouche sur ce masque funéraire. Et Nick Reeves a obtenu une très bonne photo de ce cartouche. Et on voit très bien les traces du nom de la reine pharaon sous ce cartouche. Et je ne pense pas, moi, que le visage a été changé, parce que je pense que c'est un visage un petit peu stéréotypé du roi jeune et, je dirais, d'origine un petit peu androgyne.
Ainsi, Toutankhamon aurait-il eu une sœur? Et ce serait-elle, reine pharaon avant lui, qui aurait restauré le polythéisme? Ainsi, le masque d'or de Toutankhamon ne serait pas celui de l'éternel beau jeune homme, mais celui d'une femme.
Quand on regarde le visage de Toutankhamon, si on note toutes les caractéristiques de la royauté, on a souvent du mal à se dire est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Et c'est un cas que l'on a déjà avec Nefertiti. Si vous regardez le très beau buste de Berlin, si vous enlevez la marque qui en fait la reine Nefertiti, si vous regardez que le visage, c'est assez difficile de dire si c'est un homme ou une femme. Ça veut dire que c'est un portrait qui a été recomposé. On a utilisé des traits dans le cas de Nefertiti, dans le cas de Toutankhamon, de Toutankhamon, mais on les a mis dans des règles de proportion absolument idéales et on leur a donné ce côté un petit peu androgyne qui augmente toujours la fascination que l'on a. Mais je pense que c'est pour augmenter le caractère de séduction que peut avoir ce genre de représentation.
La statue d'Amon qui date de l'époque de Toutankhamon.
Là, devant vous, hein, donc c'est une magnifique statue qui est en quartzite. Le quartzite, c'est comme du grès, c'est-à-dire une pierre de sable, mais qui a été recuit dans les entrailles de la terre. Donc ça l'a compacté et ça donne un grain très 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 fin, extrêmement résistant. Et donc ça permet une grande délicatesse dans les détails. Et c'est une pierre qui est plus ou moins liée au soleil. Hein. On trouve l'une des carrières se trouve près d'Héliopolis. Donc c'est une statue qui avait été trouvée en fragments. La statue a été érigée ici. Elle a été cassée dans l'Antiquité. Le nez avait été perdu. Il a été retrouvé par Luc Gabold il y a une quinzaine d'années. Donc il a pu être refixé sur le visage. Et c'est l'un des rares portraits de Toutankhamon, enfin, ces portraits idéalisés. Si vous regardez le modelé des yeux, le modelé de la bouche, la finesse, c'est vraiment typique de l'époque de Toutankhamon, dont l'idée est d'imprimer l'impression de puissance dans le regard du spectateur. Toutankhamon, c'est une figure emblématique de l'ancienne Égypte. Je pense que c'est le pharaon le plus connu. Et cette gloire, ben, il la tient en partie à la découverte de la tombe, la première tombe royale intacte, découverte à l'époque moderne dans la vallée des rois, à la fois à l'époque, c'est une époque extraordinaire, son père c'est Akhenaton, sa mère c'est Néfertiti, quand même du beau monde, et en plus c'est l'époque, une époque de crise pour à la fois le pouvoir royal et les tendances religieuses, puisqu'on voit apparaître le premier monothéisme historique. Et ensuite, si vous regardez l'art de l'époque de Toutankhamon, il est extrêmement attachant. Les visages sont pleins d'une grave et presque un peu douloureuse sensualité, mais malgré tout souriant. C'est extrêmement délicat, les traits sont très fins. Il a tout pour plaire.
Ce masque d'or devenu si célèbre est bien plus qu'un trésor. Car l'or, c'est la chair des dieux. Pour les anciens Égyptiens, l'or est un métal solaire, et rien n'approche plus de l'idée d'éternité que le soleil. C'est pourquoi on adore les dieux solaires, qu'ils se nomment Ré, Amon ou Aton. C'est pourquoi, dans son chemin pour devenir divin, le visage éternel de Toutankhamon, déposé sur sa dépouille, devait être en or.
Il y a, dans les portraits de l'époque de Toutankhamon, une sorte de gravité, qui est très frappante, hein, et qu'on n'a pas du tout à l'époque d'Amenhotep III, que l'on a. Et moi, je pense qu'elle est liée quand même aux circonstances que l'on a autour. C'est-à-dire, à la fois, on a une sérénité, puisque on a passé, l'Égypte a passé un certain nombre d'épreuves, mais on a cette gravité avec beaucoup de charme, et elle est un petit peu, ça donne au portrait quelque chose d'un peu douloureux. Et quand on pense que Toutankhamon a dû en quelque sorte renier ses parents, qu'il a été orphelin très jeune, puisque à l'âge de 4 ans, il a perdu son père et sa mère, je me dis qu'il a dû par la suite à la fois s'en réclamer pour pouvoir régner, mais les renier parce que ce qu'ils avaient fait du point de vue religieux n'était plus acceptable. Voilà, je me dis que c'est un enfant qui... a pu être tiraillé dans des sentiments, qui a eu une très lourde responsabilité dès l'âge de 7 ans, et que peut-être ce que l'on voit dans ce visage, ça reflète un petit peu la mélancolie de ce roi jeune. Mais bon, c'est une interprétation très très personnelle. Ce qui est extraordinaire dans les portraits de Toutankhamon, c'est que ce sont parmi les plus beaux portraits de l'Antiquité. Si on regarde dans les portraits fascinants que nous a laissés l'Antiquité, moi je dirais qu'il y a le masque de Sargon, il y a la tête de Juba de Maurétanie en bronze, il y a les portraits d'Antinous retrouvés à Rome et ailleurs, et il y a Toutankhamon. Et à chaque fois, il y a dans ces portraits une part de douceur qui rend leur beauté absolument transcendante. Hein.
Les monuments d'Akhenaton qui ont été retrouvés en miettes, vraiment détruits et laissés en ruine par ses successeurs, ont été retrouvés par les archéologues à partir de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Et on commence à lire les textes de cette époque et on se rend compte qu'Akhenaton a promu une religion qui s'approche du monothéisme juif, chrétien et musulman. Et donc les archéologues et les égyptologues ont voulu voir dans Akhenaton le père du monothéisme, et donc forcément ça suscite la passion du monde entier. Et puis en même temps on découvre leur art, l'art de cette époque qui est un des sommets de l'art égyptien, avec une sculpture très fine, très, très sensible des chairs, des lèvres, des yeux, quelque chose d'extrêmement raffiné. Et ça séduit immédiatement le monde occidental qui trouve un art très proche de l'art moderne contemporain. À cette époque, l'art de Toutankhamon est le même que celui de ses prédécesseurs. Mais en plus, en 1922, on découvre sa tombe et son trésor intact, le trésor funéraire complet du pharaon, ce qui n'était jamais arrivé. Et ce trésor est absolument extraordinaire. Des objets d'art, de l'orfèvrerie, des kilos d'or et de matériaux précieux qui fascinent forcément les Occidentaux et en fait le monde entier.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il fait partie des pharaons dont on a voulu gommer l'histoire et le souvenir. Et là, c'est complètement raté, puisque entre Akhenaton et Toutankhamon, je ne sais pas quel est le plus célèbre. Enfin, bon, en fait, ces pharaons que l'historiographie ancienne a essayé de cacher, de masquer, de supprimer de la mémoire, eh bien, en fait, sont probablement les plus connus des pharaons. Belle revanche de l'histoire.
Merci à Saba Sadik, Chérine Elkachef, Marc Gabold, Francis Amine, Frédéric Mougenot. Jean-Christophe Quenon a interprété la voix de Howard Carter faisant le récit de la découverte. Vous avez pu entendre, entre autres, l'opéra Akhenaton de Philip Glass, ainsi que la vibration du soleil enregistrée par la sonde Parker de la NASA. Prise de son, Patrick Muller, Laurent César et Jean-Louis Deloncle. Mixage, Éric Villenfin. Documentation, Anne-Lise Signoret et Véronique Le Faller. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Toutankhamon, le retour du pharaon. Épisode 2, qui est Toutankhamon ? Un puzzle de 5000 pièces. Un documentaire de Élise Gruau, réalisé par Diffie Mariani.